Si le mois de mai est le mois de Marie, le mois de juin, c'est vraiment le mois du mystère divin, avec toutes ces fêtes magnifiques qui ont commencé avec la Pentecôte, aujourd'hui la Trinité, on arrive ensuite au Saint-Sacrement, et puis ce sera le Sacré-Cœur. Vous voyez tout cela, ça nous parle du mystère divin. C'est ce mois de juin, eh bien l'Église nous propose de nous concentrer vraiment sur Dieu, qui est Dieu et ce qu'il désire. Là, c'est très centré sur l'Esprit Saint, mais pas seulement en réalité. C'est l'Esprit Saint en relation avec le Père. Première lecture, magnifique, hein, ce chapitre 8 du livre des Proverbes. Et ce très beau texte de Saint Jean, là, c'est la communion de l'Esprit Saint avec le Fils, cette fois-ci. Le mystère de la Trinité, il était présent dès le commencement de l'Église. Vous voyez dans l'Évangile, bon, ce passage de Jean par exemple, et dans l'Apocalypse aussi, ou d'une façon tout à fait différente, très symbolique mais très minutieuse, l'Esprit Saint est affirmé, la Trinité tout entière est affirmée, décrite. Le baptême, il se faisait dès le commencement par l'invocation trinitaire au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint. Et je dirais que la révélation de la Trinité, si incompréhensible, parce que souvent nous autres chrétiens, alors je ne parle pas des païens bien sûr, qui eux ne peuvent pas le recevoir, mais même pour nous qui avons l'Esprit en nos cœurs, hein, comme au commencement du monde, là, lorsque l'Esprit planait à la surface des eaux et faisait la joie du Père, eh bien l'Esprit continue de faire sa joie en nous, la joie du Père, mais en nous. Pour nous attirer jusqu'à lui, et nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas qui est Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement. Le mystère divin. Vous voyez, il y a eu ce soupçon qui revient régulièrement au long de la modernité, que le christianisme aurait tout inventé, notamment la Trinité. Mais il aurait inventé la croix aussi et la résurrection. Tout ce qui était irrecevable à l'époque de Jésus, eh bien l'Église l'aurait inventé. Elle aurait inventé la croix, alors que la croix c'était vraiment un signe de malédiction pour recruter des gens, pour être attirant en termes de communication, c'était tout le contraire. Ils auraient donc inventé le mystère de la Trinité, parfaitement incompréhensible, histoire de former de nombreux disciples. Vraiment, il y a toujours des êtres qui disent vraiment des choses impensables, des choses impensées aussi. C'est impossible que les apôtres, les apôtres et leurs compagnons aient pu inventer l'idée même de la Trinité, écrire des textes comme ceux qui nous sont parvenus sans l'aide, sans l'assistance d'en haut, sans l'assistance de l'Esprit Saint, qui lui révèle la Trinité, bien évidemment, puisqu'il nous fait ressouvenir de tout ce que Jésus nous a dit. La communion trinitaire, hein, une même substance, une suressence, la suressence divine, et pourtant trois personnes différentes. C'est comment nous, en termes, nous autres hommes, les créatures humaines, nous ne pouvons pas imaginer une telle chose. Même quand on imagine des clones, ils sont encore différents, ils ont des pensées différentes, même si, je sais pas, leur psychologie pourrait éventuellement être identique, mais la vie leur ferait prendre des choix, des directions différentes. C'est une telle communion, c'est impensable pour nous. Pourquoi? Parce que nous pensons psychologiquement. Alors, il faut apprendre au long de l'existence à dépasser le psychologique. Le mystère de la Trinité, il ne se conçoit pas, il ne se reçoit. C'est une révélation. Alors, on reçoit la révélation, qui est d'emblée incompréhensible pour nous, puisque ça dépasse notre entendement, mais on la garde. On fait comme Marie, on la garde dans notre cœur et on laisse justement cet esprit qui nous habite eh bien, nous montrer des choses. Alors il le fait par image. Nous pensons donc, commençons par cette pensée toute humaine, comment est-ce que nous imaginons Dieu? Comment est-ce que nous imaginons une conscience éternelle, infinie, celle de Dieu? Ben, en nous projetant. On imagine avec ce que nous sommes, un ego, vous voyez, éternel, un ego infini. Mais Dieu n'a pas d'ego. Qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est cette conscience monolithique et solitaire que nous partageons tous. Et nous avons besoin d'être complétés par d'autres personnes qui sont des égaux eux aussi, psychologiquement parlant, mais qui, grâce à des alliances et à l'amour, en fait, et bien permet de dépasser cet égo. Sinon, l'égo, c'est une vraie prison. Il est une fin en lui-même, l'égo. C'est pas l'âme, l'égo. L'âme, non, elle n'est pas faite comme ça. Et c'est justement avec notre âme que nous pouvons percevoir la Trinité. La Trinité, elle, c'est pas quelque chose, c'est pas une conscience monolithique. On dit que Dieu est un être de relation, mais en lui-même. C'est la Trinité. Un seul Dieu et pourtant trois personnes. C'est ce mystère que Dieu nous propose. N'essayons pas de trouver en ce monde quelque chose qui existe et qui lui soit semblable, ça n'existe pas. En ce monde, nous sommes isolés, solitaires et gothiques, en un mot. Et c'est notre conscience et elle est faite comme ça. Mais notre âme, elle peut s'acclimater à autre chose. Mais ce ne sera pas dans le concevable, dans le pensable. Donc accueillons ce mystère, contemplons-le. Dieu n'est pas solitaire. Et pourtant il est seul, et pourtant il n'a besoin de personne. Mais il n'est pas solitaire. Il y a le Père, le Fils, l'Esprit Saint, il y a ce mouvement d'amour entre les trois personnes, cette communion entre elles, ces projets qui sont mis au point en une seule pensée éternelle qui n'a pas de commencement ni de fin. Dieu nous dépasse complètement. Pensons aux représentations que Jean nous fait dans l'Apocalypse de la Trinité, parce qu'elles sont très parlantes et très simples. Le Père d'abord. Le Père, c'est quelqu'un. Il est sur un trône immense. Alors le trône est immense, d'une hauteur démesurée. Il faudrait imaginer un immeuble de 3000 mètres et on serait au pied de cet immeuble. Vous voyez, c'est à peu près là, comme ça que nous représente l'Apocalypse, le trône divin. C'est juste le pied du trône, ça. Et au sommet de ce trône, à une telle hauteur pour notre intelligence, eh bien, il y a comme quelqu'un, mais qui n'est pas représentable, et c'est un chatoiement de couleurs dans l'Apocalypse. Mais on sait qu'il y a quelqu'un, mais on ne le voit pas, c'est impossible de le concevoir. C'est la suressence divine qui nous dépasse tellement, qui est inconnaissable, et que l'homme ne peut pas connaître. Alors, Dieu a décidé, eh bien, d'envoyer son Fils dans le monde. Qui m'a vu, a vu le Père. Et d'un seul coup, ce qui était impossible, eh bien, devient possible. Et l'Esprit Saint, eh bien, va dessiner les traits du Père en nous. Alors l'Esprit Saint, dans l'Apocalypse, il est simplement représenté comme cette lampe qui brûle au pied de cet autel immense, et tout blanc. Et c'est cette lampe, des sept esprits de Dieu, qui sont à la fois au ciel et en même temps, ils sont sur la terre, nous dit le texte de l'Apocalypse. L'Esprit Saint n'a pas de figure, mais il a quand même une représentation, on peut le concevoir, le sentir, entrer en dialogue avec lui. C'est toute cette belle lecture du livre des Proverbes. Et il est toujours en septuple, c'est comme ça qu'on se représente dans la Bible, l'Esprit Saint. Au moment de la résurrection, la troisième apparition décrite par saint Jean au bord du lac, Vous avez sept disciples. Sept, parce que c'est l'Église qui est mue par l'Esprit Saint. De même, cette Église dans l'Apocalypse. L'Église n'est rien sans l'Esprit Saint. De même que nous, dans notre foi, nous ne sommes rien sans l'Esprit Saint. Enfin, il y a la troisième personne, Jésus, est représenté dans l'Apocalypse sous la forme d'un agneau, comme immolé. Et c'est la passion, bien évidemment, dont il est fait mémoire ici. Mais il est vivant, il n'est pas mort. Et cet agneau, eh bien, il est le seul à pouvoir prendre le livre aux sept sceaux, c'est-à-dire à grimper là jusqu'au sommet du trône pour aller trouver le Père et prendre dans la main droite du Père, eh bien, ce livre de la destinée humaine, prendre en main l'histoire de l'homme. Voilà comment cette Trinité nous est représentée. Elle est simple, toujours parce qu'on prend séparément les trois personnes. Mais lorsque on regarde ce Dieu comme unique, d'un seul coup, il échappe à toute préhension. Et il redevient le Dieu transcendant de l'Ancien Testament ou celui de l'Islam, le Dieu inatteignable, le Dieu que personne ne peut entendre ni ne se faire entendre de lui. Ce Dieu-là, c'est le ciel fermé. Et heureusement, Dieu prend des initiatives. C'est comme ça qu'à son ami Abraham, eh bien, il apparaît sous la forme de trois anges. Ça n'est qu'une figure. Mais ça nous dit que la connaissance de la Trinité est communiquée dans une relation d'amitié. C'est parce que Abraham était l'ami de Dieu que Dieu lui a communiqué ce grand secret. Et Abraham ne l'a pas compris. Et les Juifs ne l'ont pas compris. Parce qu'il fallait que Jésus vienne nous le faire comprendre. Et sans Jésus, on ne peut pas accéder au mystère de la Trinité. C'est impossible. Donc, il est normal que les incroyants n'y comprennent rien. Et il est même normal que les Juifs et les musulmans n'y comprennent rien eux-mêmes. Parce qu'il faut cette alliance qui est communiquée par la connaissance de la Trinité, disons que la connaissance de la Trinité est le signe que cette alliance est effective, c'est un secret d'amitié. Dieu se fait connaître uniquement à ses amis. Et nous sommes ses amis. C'est inimaginable, mais c'est comme ça. Et le Fils, voyez, il est le miroir des deux autres personnes de la Trinité. Donc Dieu a décidé de s'incarner pour se rendre présent, mais pas seulement présent en tant que Fils. Il se rend présent en tant que Père, qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Toutes ces paroles, ce qui nous montre l'unité et l'identité du Fils et du Père. Je suis venu faire la volonté du Père, les œuvres du Père. Et en même temps, eh bien, il y a Jésus est le miroir de l'Esprit Saint dans le sens où l'Esprit Saint dessine continuellement l'image du Christ en chacun d'entre nous. C'est l'Esprit de Jésus lui-même qui est communiqué aux croyants. C'est pourquoi Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, il est de votre intérêt que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit. Et cet esprit, c'est celui de Jésus. Je vous enverrai l'esprit, le paraclet. Et ce paraclet dira, vous fera ressouvenir de tout ce que j'ai dit. C'est le texte qu'on a lu. L'Esprit Saint, son œuvre en nous, c'est de dessiner l'image du Christ dans nos âmes. C'est le marquage des élus dans l'Apocalypse. Et ça, c'est ce que le baptême confère, c'est la grâce inimaginable que nous célébrons. Alors voilà, nous sommes devant un mystère qui est magnifique, c'est le mystère de Dieu lui-même. Pas étonnant qu'on n'y comprenne rien. Mais c'est un mystère d'amitié, un mystère d'amour. Et sachons que nous, chrétiens, qui connaissons Jésus-Christ, qui recevons son enseignement, eh bien nous connaissons non seulement Jésus-Christ, mais aussi le Père, mais aussi l'Esprit-Saint, et que nous pouvons concevoir cette unité sans perdre contact avec Dieu, mais en étant emporté en lui, en quelque sorte. Et nous pouvons le voir de l'intérieur, si j'ose dire. Alors évidemment, c'est pas ma raison, ce serait plutôt mon imagination là, qui travaille beaucoup, mais peu importe. Entrons dans ce mystère divin. Dieu tend la main à ses amis. Abraham, je le répète, ne comprenait pas du tout la portée de ces trois personnages. Il savait néanmoins que c'était Dieu. Mais pourquoi trois? Comment pouvait-il savoir? Eh bien, Dieu communique toujours des choses très élevées à ses amis et nous ne sommes pas toujours capables de les recevoir. Là, nous regardons le mystère de la Trinité ensemble et nous n'y comprenons pas grand-chose. Eh bien, soyons comme Abraham. Soyons dans la joie. Recevons Dieu avec ce que nous sommes et tel que nous sommes. Amen.